Bonjour chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, Vosges Alternatives au nucléaire vous présente son émission Radioactive et va vous parler d'un sujet à part. Je laisse H nous expliquer.
Alors bonjour et à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va avoir un entretien avec Jean du collectif Stop Nucléo qui donc lutte contre l'installation d'une start-up du nom de Nucléo. Bonjour Jean, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui sont Nucléo?
Alors bonjour à tous, oui, bonjour à toutes et à toutes. Alors Nucléo, en fait, c'est une start-up qui se dissimule sous une multinationale en réalité, qui a des ramifications un peu partout en Europe, qui est née grosso modo en 2021, qui a d'abord tenté de s'implanter au Royaume-Uni parce que il y avait des intérêts particuliers, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Et puis, suite à un échec cuisant là-bas, elle a relocalisé son siège en France. Donc aujourd'hui, elle se revendique comme franco-italienne puisque son fondateur est italien. Mais en réalité, elle a des ramifications en Roumanie, en Slovaquie, en Suède et maintenant aux États-Unis, où elle vient de rentrer au Nasdaq il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, on peut vraiment dire que derrière l'aspect start-up, innovatrice, innovation, recherche, etc., se dissimule vraiment une multinationale avec des dents assez longues.
Et donc c'est une multinationale qui a pour vocation plutôt à la base de travailler sur les mini-centrales, c'est ça? Et qui après s'est ouvert à d'autres ambitions nucléaires?
Non, c'est vraiment focalisé sur ce qu'on appelle donc les petits réacteurs modulaires, donc effectivement qui peuvent devenir des mini-centrales, mais on n'en est vraiment pas là, oui. Puisque leur projet est encore assez immature, et donc l'idée c'est déjà de lancer un démonstrateur, donc un petit réacteur de démonstration qui permettrait effectivement d'après aller chercher les marchés et de produire déjà un réacteur plus gros, et ensuite éventuellement une petite série de réacteurs qui, mis bout à bout les uns des autres, permettraient de faire ce qu'on appelle une mini-centrale. Parce que la particularité de ces petits réacteurs, donc qui est le fer de lance de Nucléo, c'est que ce sont des réacteurs modulaires, donc ils sont construits en série, contrairement aux EPR qu'on connaît, hein, nos grandes centrales nucléaires, qui sont des investissements très lourds, très compliqués à gérer. Là, l'idée, c'est de produire en série des petits modules qui sont transportables, qui sont modulables et qu'on assemble au gré des besoins et des envies selon les dispositifs choisis. Voilà, donc en fait, le fondateur, Stefano Buono, italien donc de nom, lui a fait fortune dans le nucléaire, mais plutôt dans le nucléaire appliqué à tout ce qui est médical.
Okay.
Et a fait fortune en fait en vendant ses sociétés au Nasdaq, etc. Et fier de sa fortune, il a décidé de manière un peu folle de relancer le nucléaire italien qui s'était un peu arrêté après la guerre de 40. Et surtout depuis le choix des Italiens de mettre fin au nucléaire électrique dans leur pays. Donc il est allé débaucher tout un tas de gens qu'il a côtoyés dans sa carrière, qui ont travaillé à des grands projets, notamment en France. Voilà, pour essayer de relancer cette dynamique des petits réacteurs nucléaires, mais qui sont en fait des réacteurs qui sont déployés un peu partout dans le monde, pas tellement effectifs encore à ce jour, à part en Chine et en Russie, mais qui sont portés par le président Macron depuis son discours de Belfort en février 2022, où il a relancé le nucléaire, les EPR, les EPR2, et notamment les dispositifs innovants de petits réacteurs nucléaires. Pour essayer de décarboner notre énergie, de relancer la filière sous couvert de transition écologique, etc. Donc, fidèle à son slogan de Startup Nation, voilà, il a essayé de mettre en place toute une pépinière d'entreprises comme ça qui ont vu le jour, hein, les Jimmy, les Calogena, les Narea, etc., dont Nucléo, qui s'est donc amené sur ce terrain des aides publiques pour essayer de voir comment elle allait pouvoir tirer les marrons du feu et mettre en place sa stratégie sur ces petits réacteurs, donc ces petits réacteurs nucléaires.
Et du coup, et dans la foulée, en fait, Nucléo, on a découvert un peu soudainement, j'ai l'impression, qu'ils avaient un projet dans l'aube. Est-ce que tu peux parler de ce projet
Alors c'est toujours un peu brutal avec ce genre de décision, puisque donc je parlais du discours de Belfort tout à l'heure, effectivement, donc ça c'est la politique, j'allais dire, la régalienne du chef de l'État, hein, le nucléaire, on sait le nucléaire civil, nucléaire militaire, tout ça est très imbriqué. Et effectivement, le problème, c'est qu'on découvre souvent ces projets par défaut, en fait, hein. Les citoyens sont assez peu informés en amont de ce qui se passe. Et effectivement, la particularité de Nucléo, c'est qu'il a essayé de... Il vise, en fait, aujourd'hui encore, trois territoires en France. Un à Chinon pour implanter son petit réacteur donc de démonstration. Un dans le Gard où il envisage de mettre en place un centre de formation pour former évidemment le personnel nécessaire à l'exploitation de ces deux autres sites. Et donc effectivement dans l'Aube, qui est un peu moi pour moi le site le plus problématique en fait, qui est le parce que c'est le plus gigantesque, qui est en fait une usine de combustible nucléaire. Parce que la particularité de Nucléo, c'est qu'il a décidé de créer une rupture vis-à-vis de l'historique qu'on avait en France ou ailleurs avec ces petits réacteurs modulaires pour créer une filière totale, c'est-à-dire un combustible dédié à ces petits réacteurs. Et donc, pour ce faire, voilà, ils ont envisagé les choses en grand sur des parcelles de 50 hectares avec l'idée que voilà, ils allaient dans l'Aube faire cette usine pour après peut-être pas seulement alimenter leurs propres réacteurs, mais aussi vendre des brevets, vendre du combustible à l'étranger, etc. Voilà, peut-être qu'on va reparler spécifiquement de ce que c'est que ce combustible. En tout cas, effectivement, nous, ça a été le déclenchement effectivement de notre collectif, c'est de découvrir que par voie de presse, hein, la presse locale, hein, l'Est Éclair pour ne pas le citer, qui au mois de juin 2025 a annoncé voilà, en enchette, Nucléo s'implante dans l'Aube, voilà, et on a
Le
découvert.
projet du siècle.
Voilà, le projet du siècle avec donc 1 700 000 euros, disons 1 500 emplois à la clé. Bon, voilà, et depuis on a bien compris qu'en fait tout ça c'est un peu de l'escroquerie et que tous les emplois sont pas aussi aussi mirobolants qu'ils n'y paraissent et que les 1 700 000 pour l'instant sont pas du tout financés. Donc en réalité c'est comme ça qu'on est nous on a émergé et en fait on s'est coalisé assez rapidement avec bah, nos comparses de Chinon qui au même moment ont découvert eux aussi. Donc ce projet de petits réacteurs dans le Chinonais et effectivement au bord de la Loire à nouveau toujours pareil hein, dans l'Aube nous on a nos gens on a une centrale nucléaire et effectivement dans le Chinonais près de la Loire il y a aussi des grosses infrastructures nucléaires donc en fait ils essaient de s'implanter sur des lieux qui sont entre guillemets accoutumés à cette idée de l'industrie nucléaire pour essayer de gagner du temps, d'accélérer les procédures, etc., etc. Et en réalité, bon, évidemment, les choses sont pas aussi simples pour eux, quoi.
Et avant de revenir justement sur l'historique de la lutte contre Nucléo, est-ce qu'en effet tu peux préciser ce que c'est que cette usine, c'est-à-dire, enfin, si tu peux parler un peu du MOX et nous expliquer deux mots là-dessus, si c'est
Oui, tout
possible.
à fait. Alors, le MOX, c'est un combustible qu'on connaît en fait, hein, qui est produit en France par voilà, qui est utilisé dans certains EPR en fonctionnement aujourd'hui, qui est en fait un mélange. Donc MOX, ça veut dire mix oxide, donc d'uranium et de plutonium. Voilà. Donc en fait, c'est un mélange c'est des poudres, en fait, des poudres de plutonium, d'uranium retraité, pardon, et de plutonium. Donc en fait, qui sont issus. La particularité qu'on a en France, c'est qu'on a depuis les années 60 le site de La Hague, qui est un immense réservoir de déchets nucléaires avec la société Orano, donc un service public hein, de l'énergie, mais qui a la particularité d'être capable de ce qu'on appelle retraiter les déchets nucléaires. Donc, à partir de l'uranium qui passe dans les EPR classiques, hein, les EPR qu'on connaît encore une fois sur nos nationales ou dans nos territoires. Produit un déchet, donc de l'uranium appauvri et du plutonium. Voilà. Et l'idée de Nucléo, c'est qu'en fait, et du MOX en général, c'est qu'on va broyer l'uranium appauvri en poudre, le mélanger à du plutonium en poudre pour déclencher des phénomènes accélérés de fission. J'essaie de faire simple hein, parce que c'est bon,
Oui.
les processus nucléaires sont assez compliqués, mais c'est en fait de surgénérer en fait la fission nucléaire pour en fait produire plus de plutonium qu'on en avait au départ. Et donc, l'idée, c'est forcément d'amener à plus de combustion de l'uranium appauvri et donc, soi-disant, de réduire les déchets en amont et en aval, enfin, de créer un cycle qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible dans un système qu'on imaginerait vertueux où, en fait, tout ce qu'on apporterait, au final, finirait par être réduit et finirait par produire moins de déchets que ce qu'on avait au départ. Donc aujourd'hui, on utilise déjà le MOX dans les EPR, mais avec un MOX qui est concentré à 8% seulement de plutonium. Et la particularité de Nucléo, elle est double, c'est qu'eux, ils veulent porter leur MOX à 30% de plutonium. Alors un jour c'est 28%, un jour c'est 25%, un jour c'est 30%. Ils savent même pas eux-mêmes effectivement quels sont les pourcentages qu'ils veulent utiliser. Mais en tout cas, porter le plutonium à une plus grande, un plus gros pourcentage dans la part du combustible. Le tout mixé avec un réacteur qui, lui, ne fonctionnerait plus à l'eau comme nos EPR ou au sodium comme ce qu'on savait faire dans les années 90, mais avec du plomb refroidi, du plomb liquide, voilà, porté à haute température. Et là, effectivement, le mix plomb-plutonium devient extrêmement compliqué à gérer parce que ça crée des réactions en chaîne. Il y a des oxydations de matériaux, il y a des phénomènes plus ou moins difficile à maîtriser. Enfin, ça peut devenir des objets assez compliqués à gérer en réalité.
Et en fait,
Donc, ça a été la première chose donc, qui nous a alertés. D'autant qu'en France, on a une législation sur le plutonium. Le plutonium, je rappelle qu'il faut 4 kilos de plutonium pour faire une bombe. Et aujourd'hui, Nucléo prétend avoir accès aux stocks de plutonium français qui sont de l'ordre de 73 tonnes à La Hague. Et donc, bon, il n'y a pas besoin de 73 tonnes pour fonctionner, mais il a besoin de à peu près 500 ou 600 kilos pour démarrer son activité, ce qui est déjà énorme, puisque je dis 4 kilos égale une bombe. Je vous laisse faire le calcul. Et donc, il y a le risque de prolifération de cette matière nucléaire qui est extrêmement dangereuse, qui peut poser des questions de prolifération, de sécurité sur les territoires, de transport, etc., etc. Donc ça, c'était la
excellent.
première chose qui nous a alertés.
Oui, et on rappelle qu'en plus, enfin, que ça reste une start-up, hein, c'est pas parce que jusqu'aujourd'hui le MOX, c'était plutôt à La Hague, quoi, à travers des entreprises entre guillemets d'État, non?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, là où c'est doublement mensonger leur affaire, c'est que donc ils prétendent. Alors Nucléo prétend. Alors là, je rentre dans des trucs un peu techniques, mais enfin prétend s'inscrire dans l'héritage de Phénix et Super Phénix, dont des réacteurs de quatrième génération qui ont fonctionné dans les années 90 en France. Donc quatrième génération, en fait, c'est juste pour dire que c'est des modèles plus avancés que ceux des années 60. Mais enfin, l'utopie reste à peu près la même. Qui consistait en fait à surgénérer donc cet uranium appauvri pour fabriquer plus de plutonium. Ça a été des échecs à la fois commerciaux, parce que ça coûtait très cher à fabriquer et très cher à entretenir, et puis ça a été des échecs aussi tout simplement technologiques. Donc Nucléo prétend s'inscrire et revaloriser les savoir-faire autour de cet héritage, alors qu'en réalité, effectivement, aujourd'hui, le MOX à 8%, donc qui est utilisé dans certains EPR, produit lui aussi des déchets qui sont 5 à 7 fois plus radioactifs que ce qu'on produit dans les EPR classiques, et on ne sait pas le retraiter, ce MOX. Donc, effectivement, il finit dans des piscines dédiées où il passe 5 fois plus de temps que l'uranium classique pour être refroidi et entreposé quelque part on ne sait où. Peut-être pour finir enterré à Bure, comme tous les déchets qu'on veut mettre sous terre. Voilà. Donc, en fait, l'autre problématique qu'il y a avec Nucléo, au-delà de la prolifération du plutonium, c'est qu'est-ce qu'ils font de leurs déchets? Parce qu'en fait, ils créent une filiale, d'accord, très bien. Ils prétendent recycler l'uranium appauvri de La Hague, mais en réalité, ils vont créer à nouveau, eux aussi, des déchets dont on ne sait que faire. Et ça, Orano, on n'a toujours pas la solution non plus. Et on parle aujourd'hui de fermeture du cycle à l'horizon 2100. C'est-à-dire, bon, c'est dans des temps colossaux. Le plutonium peut rester actif pendant 150 000 ans. Une start-up, la durée de vie, c'est 4 ans. Donc, en
Oui,
fait,
voilà.
voilà, on a affaire à des échelles de temps qui sont complètement délirantes, avec des apprentis sorciers qui sont, voilà, qui cherchent en fait à faire des brevets, à capitaliser sur des fonds privés, voilà, en s'inscrivant sur des fonds publics, à prendre de l'argent des États, comme la France, qui est prête à soutenir des technologies innovantes. Mais en réalité, tout ça, c'est une coquille vide. Et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est à capitaliser, à faire venir les investisseurs, et puis à prendre de l'argent, et puis après à revendre des brevets, etc., etc., quoi.
Très bien. On va faire une petite pause musicale et on va reprendre notre entretien.
OK.
Vamos a la playa, oh, vamos a la playa.
voilà avec Jean du collectif Stop Nucléo. Donc on a fait un point un peu sur ce qu'est la start-up Nucléo, ce qu'ils veulent faire à la fois à Chinon mais aussi dans l'Aube. Maintenant, si tu pouvais nous donner quelques indications sur le collectif, comme tu disais que donc vous vous êtes réunis avec le collectif de Chinon à la base, quand à travers la presse vous aviez appris qu'il y allait y avoir un projet dans l'Aube. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le collectif?
Ouais, tout à fait. C'est un concours de circonstances assez étonnant parce qu'en réalité, donc dans l'Aube, il y avait eu sur la parcelle donc qui aujourd'hui est convoitée par Nucléo. En fait, c'est une parcelle qui appartient au département sur laquelle il y a une dizaine d'années déjà avait eu lieu une expérimentation industrielle portée par un agriculteur aujourd'hui très connu pour ses méfaits. Les pesticides, les mégabassines notamment, etc. Et voilà, qui finalement, suite à différents déboires, c'était un projet autour de l'hydrogène, des combustibles d'hydrogène, avait lâché l'affaire en fait, et par contre avait réussi à revaloriser son achat pour le revendre au département, moyennant un petit paillasson très confortable. Et du coup, cette parcelle est à cheval sur deux communes, donc la commune de Marnay-sur-Seine, donc pas très loin de Nogent, qui elle avait dans son PLU classé ces parcelles en zone naturelle, alors que la commune voisine de Pont-sur-Seine, elle avait décidé de classer ça en zone industrialisable. Donc évidemment, le département, bah lui, sous prétexte encore de l'emploi, de l'attractivité du territoire, etc., cherche systématiquement en fait des clients pour venir s'installer là. Hein. Donc on a découvert qu'il y avait un projet de data center qui finalement a été prié de s'en aller pour installer Nucléo à la place. Mais ça, on ne le savait pas non plus en fait. On découvre ça par voie de presse. Enfin, il y a aucune consultation publique en réalité sur ces sujets qui sont pourtant éminemment cruciaux pour la démocratie, le partage de l'énergie, etc. Donc c'est quand même des vrais sujets. Et il se trouve que quand on a découvert donc cette histoire autour de Nucléo au mois de juin donc 2025, l'année dernière, ouais, ça fait presque un an, il y avait aussi des rassemblements, des soulèvements de la Terre à ce moment-là, et on est allé à ces rassemblements en se disant, tiens, aussi, on va rencontrer des gens, apporter ces discussions. Et il se trouve que bah, il y avait des gens qui étaient déjà un peu au courant aussi de ça, puisqu'il y avait eu des présentations de Nucléo à la CLI de Nogent notamment, donc la commission locale de la formation. Et en réalité, c'est parti très vite, quoi. On a fait un communiqué de presse, on s'est coalisé, on a écrit dans une revue qui s'appelle Le Chiffon aussi, qui est une revue militante en Ile-de-France. On a créé une tribune sur Mediapart, on a été très vite rejoint par tout un collectif d'associations écologiste, altermondialiste et anti-nucléaire. Et puis en fait, très vite, on a été rejoint aussi, soutenu par Global Chance, qui est un groupement de chercheurs qui réfléchissent beaucoup sur toutes ces questions, effectivement, de prolifération du nucléaire. Et donc très vite, on a réussi à créer une dynamique, en fait, une dynamique de groupe qui nous a permis de préparer le débat public qui a lieu en ce moment, qui va se terminer au mois de juillet. Mais voilà, on a fait des réunions publiques d'information pour alerter les citoyens sur ce qui se passait. Enfin, on a fait très vite, en fait, un énorme boulot d'éducation populaire, quoi, autour de qu'est-ce que c'est que la gestion des déchets nucléaires, qu'est-ce que c'est que le nucléaire, qu'est-ce que c'est que ces petits réacteurs modulaires, etc., etc. Parce que Nucléo, c'est quand même pas rien, hein. Je veux dire, c'est une privatisation de la filière qui ni plus ni moins cherche à instaurer, à dévier, en fait, l'électricité publique pour alimenter des data centers, faire des fermes verticales, des fermes usines, etc. C'est pas pour réinjecter dans le réseau privé, dans le réseau public d'électricité pour les citoyens, hein. Ce qu'ils veulent, c'est créer de l'électricité qui se vend, pour le privé, quoi, hein, pour capitaliser sur des fonds et donner des dividendes à des actionnaires. Donc, en fait, c'était très vite, voilà, ça a été très vite un groupement qui s'est créé, un collectif, voilà, et donc on a créé Stop Nucléo Chinon et Stop Nucléo Aube.
Ok.
Pour créer différents événements.
Et j'ai même cru voir un texte de la CGT qui soutenait votre collectif, non ?
Ouais, bah alors on a eu beaucoup de mal à un moment donné à se rapprocher des syndicats parce que on comprenait pas trop où se situait le rôle de l'État là-dedans, puisque alors là normalement on devrait avoir les réponses assez rapidement, puisque en fait Emmanuel Macron, dans ce fameux discours de Belfort que j'évoquais tout à l'heure, avait lancé aussi ce Choose My France 2030, hein, pour appeler les investisseurs à se rassembler autour des investissements en France. Et donc, Nucléo a reçu une première tranche d'aide publique dans le cadre de cet appel d'offres, et il était candidat à la deuxième phase. Et a priori, la deuxième phase, il ne va pas l'avoir. Mais on ne savait pas trop où se situait effectivement EDF, où se situait Orano, où se situait effectivement l'État dans cette course aux petits réacteurs. Donc les choses au fur et à mesure se sont un peu clarifiées. On a réussi à voir un peu quels étaient les acteurs et qui faisaient quoi, parce qu'il y a aussi les SMR qui sont portés par les SMR, donc les petits réacteurs nucléaires, par l'État lui-même, le CEA, EDF et compagnie. Et donc, ouais, bah finalement, les syndicats ont mis du temps à bouger, mais maintenant, ils ont pris conscience aussi des risques liés à cette prolifération du plutonium, à cette privatisation de l'énergie, et effectivement, aux risques qui sont posés par les salariés sur une technologie qui est complètement immature, en fait.
Est-ce que tu peux donc tu disais que
La Commission nationale du débat public.
du débat public finit en juillet, c'est
Oui.
ça? Et donc comment ça s'est passé pour vous, pour eux, et puis sur et puis après quelle est la suite?
Oui. Bah alors, nous, on était très proches, encore une fois, de Global Chance, avec qui on a travaillé, hein, qui sont des anciens membres du CEA, spécialistes aussi des réacteurs, que ce soit petits ou des gros. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec eux, on a fait des réunions publiques d'information avec eux. Et eux se sont carrément prononcés dès le début du débat public pour un retrait, c'est-à-dire ne pas participer à cette mascarade. Et ils avaient probablement senti le revenir comme ils savent le faire, c'est-à-dire qu'effectivement ce débat public a été sollicité par Nucléo. Donc ça aussi c'est une première, hein. C'est une société privée qui est franco-italienne qui sollicite la Commission nationale du débat public donc pour faire valoir son projet et essayer de donc de bah voilà de faire comprendre à la population quels sont les enjeux et les aboutissements de sa technologie. En réalité, dès le début, au mois d'avril, on a été très vite confronté à effectivement une sorte de vitrine dédiée à Nucléo avec des exposés, mais très vagues, floues, qui n'apportaient aucune réponse concrète. Et ça s'est perduré comme ça, ça a perduré comme ça pendant quasiment tout le débat, jusqu'au dernier. Au dernier soubresaut qui a eu lieu donc le 10 juin dernier, donc c'est tout frais, pardon, qui était une des dernières réunions qui portait donc sur l'aspect financier de Nucléo. Et là, dès le début de la soirée, Nucléo a botté en touche en disant que comme il venait d'entrer au Nasdaq sur le marché américain, il ne pouvait plus communiquer aucun chiffre sur leur projet sans avoir averti la Commission nationale du débat public, donc qui sont quand même des instances démocratiques, qui sont quand même des instances représentées par l'État français. Et voilà, et en fait, ça fait presque 2 mois maintenant qu'ils baladent l'auditoire de séance en séance, que ce soit sur l'aspect technologique, que ce soit sur l'aspect du plutonium. Voilà, on a absolument eu quasiment aucune réponse et on voit très bien qu'aujourd'hui, sous couvert de transition écologique, de décarbonation de l'industrie, etc., en fait, c'est que du business. C'est des gens qui sont là pour prendre de l'argent, revendre des brevets et puis éventuellement faire des profits sur tout ça. Mais qu'en réalité, ils sont absolument pas engagés dans une recherche de solutions pour le bien commun ou pour la transition écologique.
Et alors parce qu'on va arriver à la fin de l'entretien, et pour ça, pour suivre un peu la suite de votre collectif, de la lutte et tout ça, où est-ce qu'on peut trouver des informations? Tu parlais du chiffon, il y a déjà des articles qui ont été publiés dans le chiffon, peut-être.
Oui, alors c'était en septembre 2025, on avait effectivement publié un article dans le Chiffon. On a aussi notre tribune qui est toujours en ligne sur Mediapart. Je vais taper Stop Nucléo, Mediapart et on tombe dessus. Et puis là, on va publier un nouveau communiqué de presse aussi, justement par rapport à cette dernière réunion du débat public, qui est quand même ni plus ni moins que scandaleuse. Et faire probablement une petite action collective pour marquer la fin de ce débat public dans l'Aube et à Chinon. Et voilà. Et puis on a publié beaucoup de tracts aussi tout au long de ce débat public. On a fait quand même 3 réunions d'information, une à Paris, une dans l'Aube, une à Chinon. Voilà, on a balisé un peu le parcours pour essayer de donner le maximum d'informations aux citoyens, en leur rappelant systématiquement que le débat public ne vaut pas enquête publique et donc que rien n'est fait en fait en réalité, hein. Ils ont signé des promesses de vente, mais ils n'ont toujours pas acté définitivement les actes notariés sur ces parcelles. Ils ont une technologie qui est complètement vacillante. Ils cherchent des investisseurs en bourse. Enfin, ils sont dans une recherche de financement pour essayer de travailler un projet dont ils nous disent après que leur marché public se trouverait en réalité en Slovaquie. C'est-à-dire que c'est là où on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher les aides publiques en France. Ils s'acoquinent avec Orano, avec EDF, avec les instances de l'État, ils vont chercher des fonds aux États-Unis, puis après ils nous disent qu'en fait tout leur marché, tout le plutonium dont ils pourraient hériter, ce serait le plutonium slovaque, qui est en fait un plutonium issu du retraitement de la Russie. Enfin, vous voyez, on a vraiment affaire à une nébuleuse qui est extrêmement dangereuse en réalité, parce que derrière, c'est pas pour encore une fois injecter de l'électricité dans le réseau public, hein. C'est pour créer des entreprises privées et notamment des data centers qui vont servir à créer de l'IA pour les GAFAM et compagnie, quoi.
Ben, merci beaucoup Jean pour cet entretien et on vous souhaite plein de courage pour la suite.
Eh ben, merci à vous. Et puis, on manque pas de ressort, donc on tiendra le coup. Merci à vous.
Super. Ciao.
Au revoir.
Thank you.